Bienvenue chez Audible. Nous vous souhaitons une bonne écoute.
Audiolib présente Les Rois Maudits, tome 5, La Louve de France. De Maurice Druon, lu par Jérémy Covillo. Un livre audio enregistré avec le soutien du Centre National du Livre. Louve de France, dont les crocs acharnés déchirent les entrailles de ton époux mutilé. Thomas Gray. Prologue. Et les châtiments annoncés, les malédictions lancées du haut de son bûcher par le grand maître des Templiers, avaient continué de rouler sur la France. Le destin abattait les rois comme des pièces d'échecs. Après Philippe le Bel foudroyé, après son fils aîné Louis X au bout de 18 mois assassiné, le second fils, Philippe V, paraissait promis à un long gouvernement. Or, à peine 5 années écoulées, Philippe V mourait à son tour avant d'avoir atteint 30 ans. Arrêtons-nous un instant sur ce règne qui ne se présente comme un répit de la fatalité qu'en regard des drames et des écroulements qui allaient lui faire suite. Règne pâle, semble-t-il à celui qui feuillette l'histoire d'un geste distrait, sans doute parce qu'il ne retire pas de la page sa main teinte de sang. Et pourtant, voyons de quoi sont faits les jours d'un grand roi quand le sort lui est contraire. Car Philippe V le Long pouvait compter au nombre des grands rois. Par la force et par la ruse, par la justice et par le crime, il avait, jeune homme encore, saisi la couronne mise aux enchères des ambitions. Un conclave emprisonné, un palais royal enlevé d'assaut, une loi successorale inventée, une révolte provinciale brisée par une campagne de 10 jours, un grand seigneur jeté en cachot, un enfant royal tué au berceau, du moins à ce que chacun croyait, avait marqué les rapides étapes de sa course au trône. Le matin de janvier 1317, où, toute cloche sonnant dans le ciel, il était sorti de la cathédrale de Reims, le deuxième fils du roi de fer possédait d'évidentes raisons de se penser triomphant et libre de reprendre la grande politique qu'il avait admirée chez son père. Sa turbulente famille s'était par obligation inclinée. Les barons, matés, se résignaient à son pouvoir. Le Parlement subissait son ascendant et la bourgeoisie l'acclamait, tout à l'enthousiasme d'avoir retrouvé un prince fort. Son épouse était lavée des souillures de la tour de Nesle. Sa descendance semblait assurée par le fils qui venait de lui naître. Le sacre, enfin, l'avait revêtu d'une intangible majesté. Rien ne manquait à Philippe V pour jouir du relatif bonheur des rois, et pas même la sagesse de vouloir la paix et d'en connaître le prix. 3 semaines plus tard, son fils mourait. C'était son seul enfant mâle, et la reine Jeanne, désormais frappée de stérilité, ne lui en donnerait plus d'autre. Au début de l'été, une famine ravageait le pays, jonchant les villes de cadavres. Puis bientôt, un vent de démence souffla sur toute la France. Quel élan aveugle et vaguement mystique, quels rêves élémentaires de sainteté et d'aventure, quel excès de misère, quelle fureur d'anéantissement poussèrent soudain garçons et filles des campagnes, gardiens de moutons, de bœufs et de porcs, petits artisans, petites fileuses, presque tous entre 15 et 20 ans, à quitter brusquement leur famille, leur village, pour se former en bandes errantes, pieds nus, sans argent ni vivre. Une incertaine idée de croisade servait de prétexte à cet exode. La folie, en vérité, avait pris naissance dans les débris du temple. Nombreux étaient les anciens templiers que les prisons, les procès, les tortures, les reniements arrachés sous le fer rouge et le spectacle de leurs frères livrés aux flammes avaient rendus à demi-fous. Le désir de vengeance, la nostalgie de leur puissance perdue et la possession de quelques recettes de magie apprises de l'Orient en avaient fait des fanatiques, d'autant plus redoutable qu'il se cachait sous l'humble robe du clerc ou le sarrau du tâcheron. Reformés en société clandestine, ils obéissaient aux ordres mystérieusement transmis du grand maître secret qui avait remplacé le grand maître brûlé. Ce furent ces hommes-là qui, un hiver, se muèrent soudainement en prêcheurs de village et, pareil aux joueurs de flûte des légendes du Rhin, entraînèrent sur leurs pas la jeunesse de France. Vers la Terre Sainte, disaient-ils. Mais leur volonté véritable était la perte du royaume et la ruine de la papauté. Et le pape et le roi demeuraient également impuissants devant ces hordes d'illuminés qui parcouraient les routes, devant ces fleuves humains qui grossissaient à chaque carrefour, comme si la terre de Flandre, de Normandie, de Bretagne, de Poitou avait été ensorcelée. 10 000, 20 000, 100 000, les pastoureaux marchaient vers de mystérieux rendez-vous. Prêtres interdits, moines apostats, brigands, voleurs, mendiants et putains se joignaient à leurs troupes. Une croix était portée en tête de ces cortèges où filles et garçons s'abandonnaient à la pire licence, au pire débordement. 100 000 marcheurs en guenilles qui entrent dans une ville pour y demander l'aumône ont vite fait de la mettre au pillage. Et le crime, qui n'est d'abord que l'accessoire du vol, devient bientôt la satisfaction d'un vice. Les pastoureaux ravagèrent la France pendant toute une année, avec une certaine méthode dans leur désordre, n'épargnant ni les églises ni les monastères. Paris, affolé, vit cette armée de pillards envahir ses rues, et le roi Philippe V, d'une fenêtre de son palais, leur adressait des paroles d'apaisement. Ils exigeaient du roi qu'il se mît à leur tête. Ils prirent d'assaut le Châtelet, assommèrent le prévôt, pillèrent l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés. Puis un nouvel ordre, aussi mystérieux que celui qui les avait assemblés, les lança sur les chemins du sud. Les Parisiens tremblaient encore que les pastoureaux déjà inondaient Orléans. La Terre Sainte était loin. Ce furent Bourges, Limoges, Saintes, le Périgord et le Bordelais, la Gascogne et la Genêt qui eurent à subir leur fureur. Le pape Jean XXII, inquiet de voir le flot se rapprocher d'Avignon, menaça d'excommunication ces faux croisés. Ils avaient besoin de victimes, ils trouvèrent les Juifs. Les populations urbaines, dès lors, applaudissant au massacre, fraternisèrent avec les pastoureaux. Ghetto de Lectoure, d'Auvillard, de Castel-Sarrasin, d'Albi, d'Auch, de Toulouse. Ici, 115 cadavres, ailleurs, 152. Pas une cité du Languedoc qui n'ait eu droit à sa boucherie expiatoire. Les Juifs de Verdun-sur-Garonne se servirent de leurs propres enfants comme projectiles, puis s'entr'égorgèrent pour ne pas tomber aux mains des fous. Alors, le pape à ses évêques, le roi à ses sénéchaux, donnèrent ordre de protéger les Juifs dont les commerces leur étaient nécessaires. Le comte de Foix, se portant au secours du sénéchal de Carcassonne, dut livrer vraiment une bataille rangée où les pastoureaux, repoussés dans les marécages d'Aigues-Mortes, moururent par milliers, assommés, percés, enlisés, noyés. La terre de France buvait son propre sang, engloutissait sa propre jeunesse. Clergés et officiers royaux s'unirent afin de pourchasser les rescapés. On leur ferma les portes des villes, on leur refusa vivres et logements, on les traqua dans les passes des Cévennes, on pendit tous ceux qu'on captura, par grappes de 20, de 30, aux branches des arbres. Des bandes errèrent encore pendant près de 2 ans, et il alla s'en perdre jusqu'en Italie. La France, le corps de la France était malade. À peine apaisée la fièvre des pastoureaux, apparut celle des lépreux. Étaient-ils tous responsables, ces malheureux aux chairs rongées, aux faces de mort, aux mains transformées en moignons, ces parias enfermés dans leur ladrerie, village d'infection et de pestilence où ils procréaient entre eux et dont ils ne pouvaient sortir que cliquette en main? Étaient-ils responsables absolument de la pollution des eaux? Car l'été de 1321, les sources, les ruisseaux, les puits et les fontaines furent en de nombreux points empoisonnés. Et le peuple de France, cette année-là, haleta, assoiffé, devant ces généreuses rivières, où ne s'y abreuva plus qu'avec effroi, attendant l'agonie pour chaque gorgée. Le temple avait-il mis la main aux poisons étranges, faits de sang humain, d'urine, d'herbes magiques, de têtes de couleuvres, de pattes de crapauds écrasées, d'hosties transpercées et de poils de ribaude, qu'on assura avoir été répandus dans les eaux? Avait-il poussé à la révolte le peuple maudit, lui inspirant, comme certains lépreux l'avouèrent sous la torture, la volonté que tous les chrétiens périssent ou devinssent lépreux eux-mêmes? L'affaire commença dans le Poitou, où le roi Philippe V séjournait. Elle gagna vite le pays tout entier. Le peuple des villes et des campagnes se rua sur les léproseries pour y exterminer ces malades devenus soudain ennemis publics. N'étaient épargnées que les femmes enceintes, mais seulement jusqu'au sevrage de leurs nourrissons. Après quoi, on les livrait aux flammes. Les juges royaux couvraient de leurs sentences ces hécatombes, et la noblesse y prêtait ses hommes d'armes. Puis l'on se retourna une fois de plus contre les Juifs, accusés d'être complices d'une immense et imprécise conjuration inspirée, assurait-on, par les rois maures de Grenade et de Tunis. On eût dit que la France, dans de gigantesques sacrifices humains, cherchait à apaiser ses angoisses, ses terreurs. Le vent d'Aquitaine était imprégné de l'atroce odeur des bûchers. À Chinon, tous les Juifs du bailliage furent jetés dans une grande fosse de feu. À Paris, ils furent brûlés sur cette île qui portait tristement leur nom, en face du château royal, et où Jacques de Molay avait prononcé sa fatale prophétie. Et le roi mourut. Il mourut de la fièvre et du déchirant mal d'entrailles qu'il avait contracté en Poitou, dans sa terre d'apanage. Il mourut d'avoir bu l'eau de son royaume. Il mit 5 mois à s'éteindre dans les pires souffrances, consumé, squelettique. Chaque matin, il commandait d'ouvrir les portes de sa chambre, en l'abbaye de Longchamp où il s'était fait transporter, laissant venir tous les passants jusqu'à son lit pour pouvoir leur dire « Voyez ici le roi de France, votre souverain seigneur, le plus pauvre homme de tout son royaume, car il n'est nul d'entre vous avec qui je ne voudrais échanger mon sort. Mes enfants, mirez-vous à votre prince temporel et ayez tous le cœur à Dieu en voyant comme il se plaît à jouer avec ces créatures du monde. » Il alla rejoindre les eaux de ses ancêtres à Saint-Denis, le lendemain de l'épiphanie de 1322, sans que personne, hormis sa femme, le pleura. Et pourtant, il avait été un roi fort sage, soucieux du bien public. Il avait déclaré inaliénable toute partie du domaine royal. Il avait unifié les monnaies, les poids et les mesures, réorganisé la justice pour qu'elle fût rendue avec plus d'équité, interdit le cumul des fonctions publiques, défendu aux prélats de siéger au Parlement, doté les finances d'une administration particulière. On lui devait encore d'avoir développé l'affranchissement des serfs. Il souhaitait que le servage disparût totalement de ses états. Il voulait régner sur un peuple d'hommes jouissant de la liberté véritable, telle que la nature les avait faits. Il avait évité les tentations de la guerre, supprimé de nombreuses garnisons intérieures pour renforcer celles des frontières et préféré toujours les négociations aux stupides équipés. Sans doute était-il trop tôt pour que le peuple admît que la justice et la paix coûtassent de lourds sacrifices d'argent. « Où sont allés, demandait-on, les revenus, les dîmes et les annates, et les subventions des Lombards et des Juifs, puisqu'on a moins distribué d'aumônes, qu'on n'a pas tenu chevauchés ni construit d'édifices? Où donc tout cela a-t-il fondu ?» Les grands barons, provisoirement soumis, et qui parfois, devant les remous des campagnes, s'étaient par peur serrés autour du souverain, avaient attendu patiemment leur heure de revanche et contemplé d'un regard apaisé l'agonie de ce jeune roi qu'ils n'avaient pas aimé. Philippe V le Long, homme seul, en avance sur son temps, était passé dans l'incompréhension générale. Il ne laissait que des filles. La loi des mâles, qu'il avait promulguée pour son propre usage, les excluait du trône. La couronne était échue à son frère cadet, Charles de la Marche, aussi médiocre d'intelligence que beau de visage. Le puissant comte de Valois, le comte Robert d'Artois, tout le cousinage capétien et la réaction baroniale se voyaient à nouveau triomphants. Enfin l'on pouvait reparler de croisades, se mêler aux intrigues de l'Empire, trafiquer des cours de la monnaie et assister, en se moquant, aux difficultés du royaume d'Angleterre. Là-bas, un roi léger, décevant, incapable, soumis à la passion amoureuse qu'il porte à son favori, se bat contre ses barons, contre ses évêques, et lui aussi trempe la terre de son royaume du sang de ses sujets. Là-bas, une princesse de France vit en femme humiliée, en reine bafouée, tremble pour sa vie, conspire pour sa sauvegarde et rêve de vengeance. Il semble qu'Isabelle, fille du roi de fer et sœur de Charles IV de France, est transportée au-delà de la Manche, la malédiction des Templiers.